Donc si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avions laissé notre Seigneur à l'issue de son premier combat contre le démon, après ses 40 jours de jeûne au désert, la tentation. Et c'est à partir de là, bien que notre Seigneur donc rentre dans sa vie publique et qu'il va se manifester aux hommes. Et la première manifestation donc publique de notre Seigneur, il y a eu le baptême, bien sûr, de notre Seigneur, mais qui est resté malgré tout assez discret. Et donc cette première manifestation publique de notre Seigneur va être d'abord faite à Saint Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, bien, nous suivrons, c'est l'évangile de Saint Jean que nous suivrons, car il est pratiquement le seul à nous raconter ces épisodes de l'appel des premiers disciples, la manifestation de Jésus-Christ à ses premiers disciples. D'abord au bord du Jourdain, par l'intermédiaire de Saint Jean-Baptiste, et puis ensuite aux noces de Cana. Tout cela, c'est Saint Jean qui nous le raconte. Quasiment une lecture que nous ferons aujourd'hui de l'évangile de Saint Jean avec les commentaires de Saint Thomas d'Aquin. Voilà, donc, et puis un jour, et l'évangile nous dit, voilà, le lendemain, de quoi on ne sait pas très très bien, mais enfin, bon, le lendemain, donc le jour suivant, sans doute ce qui suit bien ce que Saint Jean-Baptiste, ce que Saint Jean plutôt vient de raconter justement, cet épisode-là, où Saint Jean-Baptiste témoigne qu'il n'est pas le Christ, hein, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez point. C'est lui qui doit venir après moi, bien qu'il existe avant moi, et je ne suis pas digne de lier la courroie de sa chaussure. Voilà. Témoignage de Saint Jean-Baptiste. Et le lendemain, Jean aperçut Jésus qui venait vers lui. « Voici l'agneau de Dieu, s'écria-t-il, voici celui qui efface le péché du monde. » C'est beau tout cela. Notre Seigneur d'abord vient vers Saint Jean-Baptiste, hein, et Saint Thomas d'Aquin nous explique justement bien que Jésus-Christ vient vers Saint Jean-Baptiste pour confirmer le témoignage de Saint Jean-Baptiste. Effectivement, tout ce qu'il a dit, celui qu'il a annoncé, c'est moi et je viens vers lui. Et il vient justement provoquer, si vous voulez, d'une certaine façon, ce nouveau témoignage de Saint Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Il vient justement, par ce nouveau témoignage donc qu'il vient provoquer, exclure l'erreur de ceux qui auraient pu croire que son baptême, à lui, le baptême que Jésus-Christ a reçu lui-même, avait eu pour but de le laver lui-même de ses péchés. Oui. À savoir qu'il aurait été un homme comme les autres qui venait recevoir le baptême de pénitence. Oui. Eh bien non, puisque le témoignage que rend Saint Jean-Baptiste aujourd'hui, c'est « Voici celui qui enlève le péché du monde ». Donc c'est l'inverse. Oui. Donc le baptême qu'il a reçu, ce n'est pas pour être purifié de ses péchés, puisqu'il est celui qui enlève le péché du monde, au contraire. Oui. Par ce baptême qu'il a reçu, il a voulu communiquer justement à l'eau le pouvoir d'effacer le péché, le pouvoir de purifier, mais purification spirituelle, purification intérieure. Ouais. Le témoignage de Saint Jean-Baptiste écarte cette erreur. Ouais. Et alors ensuite, il y a cette formule qu'emploie Saint Jean-Baptiste qui est très belle, hein, à laquelle nous sommes habitués. Puisque nous le disons tous les jours, « Ecce agnus Dei, ecce gutulit peccatamun ». Est-ce que nous réfléchissons un petit peu à la signification de cette formule « Voici l'agneau de Dieu ». Voici ce que dit saint Thomas d'Aquin dans son commentaire. Pourquoi donc Jean-Baptiste a-t-il désigné le Christ par le nom d'agneau? Eh bien, la raison se trouve dans le livre des Nombres, et également au livre de l'Exode, au livre des Nombres, au chapitre 28, verset 3. Donc, c'est notre, c'est le Seigneur, c'est Dieu, qui dit à Moïse, « Voici le sacrifice que vous devez offrir, deux agneaux d'un an, sans tache, tous les jours, en holocauste perpétuel. Vous en offrirez un le matin et l'autre vers le soir. C'est l'holocauste perpétuel que vous avez offert sur la montagne de Sinaï, etc. etc. » Et donc ça, au livre des Nombres, également au livre de l'Exode, pratiquement la même ordonnance, chapitre 29, verset 38. « Voici ce que tu sacrifieras sur l'autel, deux agneaux d'un an, chaque jour sans interruption, un agneau le matin et l'autre le soir. L'autre agneau, tu l'offriras vers le soir selon le rite de l'oblation du matin et selon ce que nous avons dit en odeur de suavité. C'est un sacrifice qui sera offert au Seigneur d'une oblation perpétuelle en vos générations à la porte du tabernacle, etc. Vous voyez cet agneau, ce sacrifice de l'agneau, donc qui était pratiquement le sacrifice central de tous les sacrifices qui étaient prescrits sous l'ancienne loi. Et c'était ce sacrifice, ce double sacrifice de l'agneau, le matin et le soir, qui formait le centre de tous ces sacrifices. Ouais. Et sacrifice perpétuel. Ouais, c'était pratiquement le seul sacrifice qui devait être offert comme cela tous les jours. Et vous voyez déjà, vous sentez, je pense, une annonce un peu de ce sacrifice parfait, ce sacrifice saint, qui sera offert tous les jours jusqu'à la fin des temps, le saint sacrifice de la messe, le sacrifice donc de l'agneau, effectivement, le véritable agneau, c'est Jésus-Christ, préfiguré dans l'Ancien Testament par ce sacrifice des agneaux. Et donc, voilà ce que dit saint Thomas. La raison se trouve donc dans le livre des Nombres. On y voit qu'à certains jours, on offrait dans le temps certains sacrifices, d'autres sacrifices, l'holocauste, etc. Bon. Cependant, il y en avait un qui était quotidien. Il y avait un sacrifice quotidien, c'était l'offrande perpétuelle, matin et soir, d'un agneau. Ce sacrifice ne changeait jamais. On l'accomplissait comme le rite principal, les autres venant s'y joindre. Et c'est ainsi que l'agneau, qui était le sacrifice principal, représente le Christ, qui est le sacrifice principal. Oui. Analogie entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tous nos sacrifices à nous sont bien, sont bons, sont tout à fait louables, mais n'ont de valeur, ne reçoivent leur puissance, leur pouvoir, ne sont agréés que par rapport au sacrifice de la messe, par rapport au sacrifice de l'agneau. Eh bien, sous l'Ancien Testament, c'était déjà cela. Hein, tout se référait à ce double sacrifice de l'agneau. Car bien que tous les saints qui ont souffert pour la foi au Christ contribuent au salut des fidèles, cependant, ils ne le font que dans la mesure où ils sont immolés sur l'oblation de l'agneau, comme une oblation étroitement liée au sacrifice principal. Dès les premiers temps de l'Église, hein, l'agneau de Dieu. Et ensuite, saint Thomas continue à examiner. Agneau de Dieu, l'agneau qui désigne donc un animal, un être créé, et puis l'agneau de Dieu, ce n'est pas n'importe quel agneau, ce n'est pas un agneau, ce n'est pas l'agneau, c'est l'agneau de Dieu. Il dit agneau de Dieu, car dans le Christ il y a deux natures, l'humaine et la divine. Et l'agneau donc se rapporte à la nature humaine, l'agneau de Dieu se rapporte à la nature divine de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu signifie encore, voici l'agneau offert par Dieu, c'est-à-dire par le Christ lui-même qui est Dieu. C'est lui qui s'offre lui-même, il s'offre en sacrifice, il n'est pas offert par les hommes, non, c'est lui qui s'offre et personne d'autre. Il est le prêtre de son sacrifice, donc l'agneau de Dieu, oui, eh bien c'est la victime dont Dieu lui-même est le prêtre. Ou bien encore, agneau de Dieu peut aussi vouloir dire agneau du Père. L'agneau du Père, car le Père lui-même a donné à l'homme de pouvoir offrir pour les péchés un sacrifice suffisant, sacrifice que l'homme lui-même était incapable d'offrir. Oui, c'est l'agneau du Père, c'est l'agneau que le Père nous donne à nous pour que nous l'offrions. Et l'agneau de Dieu, voilà. Dieu nous a donné un agneau qui est son Fils, afin que nous l'offrions en sacrifice. C'est extraordinaire, cela. Oui. Voilà, agneau de Dieu. Oui, deux petits mots auxquels peut-être nous ne réfléchissons pas suffisamment, mais qui sont pleins de signification. Et ensuite, saint Thomas d'Aquin continue à se poser des questions. Mais pourquoi un agneau, après tout? Pourquoi Dieu avait-il choisi, eh bien, que ce soit un agneau qui soit immolé? Eh bien, l'agneau, pourquoi? Eh bien, d'abord, bien sûr, à cause de sa pureté, la pureté de l'agneau. L'agneau, c'est tout propre, c'est tout beau, c'est tout mignon, c'est magnifique, etc. La pureté. Et surtout que l'Ancien Testament précisait que cet agneau devait être sans tache. L'agneau sans tache. Ce sera un mâle et il n'aura qu'un an. Tout jeune, sans tache, mâle. Donc la pureté de l'agneau. Et il est sûr que cette pureté revient à Jésus-Christ en tout premier lieu. À cause également de sa douceur. C'est doux un agneau. On dit bien doux comme un agneau. Hein, la douceur de l'agneau. Comme un agneau devant le tondeur, il est resté muet. C'est ce que dit Isaïe pour désigner justement le Messie dans sa passion. Muet, muet comme un agneau que l'on va égorger, qui ne dit rien, qui ne bouge pas et qui se laisse égorger, sans manifester, sans réagir. Donc la pureté de l'agneau, la douceur de l'agneau. Et encore, dit-il, à cause de ce qu'il nous apporte, car il est vêtement. Les agneaux sont pour vous vêtir. Et saint Paul nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Oui, on se revêt un petit peu, si vous voulez, de la peau de l'agneau, oui, comme d'un vêtement. Et enfin, la nourriture. Un aliment, hein, le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ouais, cette chair que Jésus-Christ va nous donner, eh bien, c'est la chair de l'agneau. Une chair qui est bonne, qui est douce, qui est délicate. Ouais, voilà. Et tout ce qu'il y a d'enfermé dans ce symbolisme de l'agneau, l'agneau de Dieu et bon, l'agneau lui-même, hein, qui enlève le péché du monde. Et c'est à partir de maintenant, c'est de cette façon que Saint Jean-Baptiste va toujours désigner l'agneau de Dieu. Le lendemain encore, nous verrons. Notre Seigneur encore passe et Saint Jean-Baptiste va encore le désigner de la même façon. Hein, voici l'agneau de Dieu. Voici donc cette première manifestation, oui, donc, où là Jésus-Christ est désigné par Saint Jean-Baptiste lui-même. Là, voici l'agneau de Dieu. Y avait-il des témoins quand Jésus-Christ est venu vers Saint Jean-Baptiste? Voilà, sans doute y avait-il autour de Saint Jean-Baptiste quelques disciples devant lesquels il s'est écrié cela, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, etc. Mais pas de, semble-t-il, pas encore de réaction. Et nous verrons plus tard là, pour quelles raisons peut-être n'y a-t-il pas eu encore de réaction. Car Saint Jean-Baptiste ensuite rend ce témoignage encore, voyez, il rend témoignage à la grandeur de Jésus-Christ. Voyez. Je ne le connaissais point, mais c'est pour qu'il soit manifesté, etc. Bon, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel sous la forme d'une colombe et se reposer sur lui. Je ne le connaissais point, mais celui qui m'a envoyé pour baptiser dans l'eau m'avait dit, etc. Donc il témoigne, je l'ai vu et je témoigne qu'il est le Fils de Dieu. Voilà, premier témoignage, ben, donc public, si vous voulez, rendu par Saint Jean-Baptiste à notre Seigneur. Apparemment, pas de suite, pas de réaction. Les disciples ne bougent pas. Les autres, les disciples de Saint Jean-Baptiste, hein, ceux qui étaient là auprès de lui. Et le jour suivant, oui, encore le jour suivant, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et voyant passer Jésus, cette fois Jésus ne vient plus vers lui, il passe simplement, bon, à une certaine distance peut-être. Que fait Saint Jean-Baptiste? Eh bien, il se contente de désigner notre Seigneur, c'est tout, rien de plus. Voici l'agneau de Dieu, c'est tout, il ne dit rien d'autre. Et alors que la veille, oui, donc il a désigné, mais en plus il a explicité un petit peu la grandeur, la gloire, en disant qu'il était le Fils de Dieu. Et là, il se contente de dire, voici l'agneau de Dieu. Et alors les deux disciples qui l'entendaient, deux disciples qui étaient avec lui, l'entendant parler ainsi, se mirent à suivre Jésus. Curieux, hein? Alors qu'il ne dit presque rien, voici l'agneau de Dieu, ecce agnus Dei, et voici que deux disciples qui étaient avec lui suivent Jésus. Et alors Jésus s'étant retourné, c'est très beau tout ça, oui, chaque mot est à scruter. Et Jésus se retourne alors, et les voyant à sa suite, que cherchez-vous, leur demanda-t-il. Rabbi, ce mot veut dire maître, où demeurez-vous? Venez et voyez, répondit Jésus. Et c'est très beau, un dialogue très très simple, un peu de mots échangés, mais qui ont bouleversé toute la vie, hein, de ces deux disciples qui vont devenir des apôtres, hein, de notre Seigneur. Voilà. Que cherchez-vous, maître, où demeurez-vous? Venez et voyez. Et c'est fini. Ils sont conquis, ils sont saisis et ils ne quitteront plus notre Seigneur, puisque l'un d'eux même le suivra jusqu'au pied de la croix. Oui, oui, c'est. Alors là aussi, bon, suivant un petit peu le commentaire que nous donne Saint Thomas d'Aquin. Oui, témoignage de Saint Jean-Baptiste, donc encore plus bref que celui qu'il a donné la veille. Voici l'agneau de Dieu, c'est tout, rien de plus. Ouais. Et pourquoi? Eh bien parce que l'intention de Saint Jean-Baptiste était uniquement d'amener ses disciples au Christ. Et cela, c'est très beau, bon, peut-être pas pour vous directement, mais c'est un bel exemple qui nous donne à nous, prédicateurs, prêtres, hein, bien que notre rôle n'est pas d'amener les disciples à nous-mêmes, mais d'amener les disciples au Christ. Voilà. Nous sommes là pour désigner, pour montrer le Christ, pour le mettre en lumière et conduire les disciples, les fidèles au Christ. Alors si les disciples nous quittent, comme ils le feront pour Saint Jean-Baptiste, Deo gratias, du moment qu'ils vont au Christ. C'est tout ce qu'on demande, qu'ils suivent notre Seigneur. Ouais. Donc l'intention de Jean était uniquement d'amener ses disciples au Christ. Et Saint Jean-Baptiste ne leur dit pas « allez à lui », mais il met en lumière simplement, vous voyez, cela est bien beau, il met en lumière simplement la grâce du Christ comme un bienfait pour ceux qui le suivent. Voilà. Il met en lumière la grâce du Christ. Et quelle est cette grâce du Christ? Eh bien, c'est qu'il est l'agneau de Dieu. Voilà. Voici l'agneau de Dieu. Et c'est sûr, un disciple au cœur droit, au cœur fidèle, eh bien, ça lui suffit pour le suivre. Ce n'est pas la peine qu'on en dise beaucoup plus. Voici l'agneau de Dieu. Eh bien, en avant, on lui emboîte le pas. Hein. C'est pourquoi il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, voici celui en qui est la grâce et la puissance purificatrice des péchés. Toujours référence hein, au sacrifice de l'Ancien Testament. Voilà. Donc voici l'agneau de Dieu. Et les deux disciples ont tout à fait compris ce que ça signifiait, hein, référence au sacrifice de l'ancienne loi. Et aussitôt, eh bien, que font-ils? Ils suivent notre Seigneur. Oui. Et saint Jean Chrysostome fait à ce sujet quelques petites remarques. Il fait quelques remarques. Oui, c'est, qu'est-ce qu'il nous dit? Quatre remarques au sujet de ce petit événement. Il désigne, voici l'agneau de Dieu, et les autres le suivirent aussitôt. Eh bien, première remarque, eh bien, c'est que Jean remet au Christ les disciples qui lui sont fiancés par la foi. Oui, c'est ses disciples qu'il baptisait, qu'il enseignait depuis des semaines, des mois peut-être, et dans les âmes de qui il avait fait naître la foi déjà au Christ. Oui. Donc ces âmes étaient déjà d'une certaine façon fiancées au Christ par la foi. Eh bien voici leur époux qui passe. Voilà. Eh bien il nous le dira un peu plus tard au chapitre suivant de l'évangile de saint Jean. Mais l'ami de l'épouse, l'ami de l'époux n'a qu'une joie. Eh bien c'est de lui conduire l'épouse justement, de lui conduire les âmes qui lui sont fiancées. Voilà. Donc ces âmes dans lesquelles, ces âmes qu'il a fiancées, si l'on peut dire, au Christ, en faisant naître la foi en elles, eh bien voilà. Il les conduit à celui qui est leur véritable époux. Ouais, donc Jean parle, nous dit saint Jean Chrysostome, le Christ se tait. Ouais, le Christ se tait. Il est l'époux, si l'on peut dire, qui attend eh bien, que les âmes qui lui sont fiancées viennent à lui. Et voici eh bien, une sorte de l'ami de l'époux qui lui conduit ses âmes. Le Christ se tait. Jean parle. Mais aussitôt après les avoir reçus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les entraîner à sa suite pour les instruire avec soin. Deuxième remarque de saint Jean Chrysostome, toujours, oui, ce que j'évoquais tout à l'heure. Oui, rappelez-vous, la veille, lorsque saint Jean-Baptiste mettait en lumière un peu la gloire de Jésus-Christ, personne ne suivait Jésus-Christ. Personne ne l'a suivi. Mais alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit simplement, voici l'agneau de Dieu. Donc il ne met pas en lumière la grandeur, la puissance, la gloire, la divinité de Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là qu'on suit Jésus-Christ. Ça y est, il y a beaucoup de choses là-dedans, hein, beaucoup de choses. Ouais. Voici ce que dit donc saint Jean Chrysostome. Lorsque saint Jean-Baptiste soulignait la dignité du Christ, personne ne s'est converti. Mais quand il a parlé des abaissements du Christ et du mystère de l'incarnation, alors ses disciples ont suivi Jésus. Voici l'agneau de Dieu, un agneau symbole de l'incarnation, donc de la divinité, fragilité, souffrance, l'agneau qui va être immolé. Alors là, les cœurs sont touchés. Alors que lorsqu'il chantait la dignité, la grandeur du Christ, peut-être, mon comtesse, peut-être ça effrayait, on n'osait pas s'approcher de lui, alors que là, eh bien, il manifeste sa fragilité, sa souffrance, son humiliation, son abaissement. Eh bien, à ce moment-là, on le suit. Car les abaissements du Christ, ce qu'il a souffert pour nous, nous émeuvent davantage. Et c'est bien vrai, cela. Et c'est vrai. Qu'est-ce qui émeut le plus une âme? Si l'on veut convertir une âme, lui manifester l'amour que le Christ a pour elle, mais qu'est-ce qu'il faut lui dire? Il faut lui montrer la croix. Il faut lui montrer la passion. Il faut lui montrer les souffrances du Christ. Alors là, oui, d'accord, on comprend qu'effectivement, il nous aime. Ouais. Mais si on met en lumière uniquement la majesté, la grandeur, la sainteté du Christ, au contraire, ça impressionne un petit peu. Alors, on n'ose pas trop s'approcher. Alors que le crucifié, le Sacré-Cœur, alors ça, oui, ça ébranle un petit peu. Et là, on a un peu moins peur d'approcher de lui. On croit peut-être davantage, effectivement, à la vérité de l'amour qu'il a pour nous. Oui, ouais. C'est vrai tout cela. Ouais. Donc pourquoi cette simple remarque, voici l'agneau de Dieu, a suffi, hein, à déclencher le mouvement des disciples. Troisième remarque de saint Jean Chrysostome, eh bien, c'est qu'il n'y a que deux disciples qui suivent notre Seigneur. Il n'y a que deux seuls. Alors que, ma foi, il y avait d'autres, sans doute. Il y avait des foules qui venaient se faire baptiser, qui suivaient Saint Jean-Baptiste. Lorsque Jean prêche, il ne convertit pas au Christ tous ses disciples, mais deux seulement, ceux qui étaient bien disposés. Ça, c'est très rassurant aussi pour les prédicateurs. Ma foi, on prêche, mais oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est normal. Bon, et puis il y en a combien qui se convertissent? Beaucoup, certainement ici, tout le monde se convertit, mais... Bon, voilà, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, pas mal ça. Mais Saint Jean-Baptiste, voilà, il a prêché, il a montré l'agneau, il n'y a que deux disciples qui l'ont suivi. Et tout. Mais oui, ceux qui étaient bien disposés. Alors qu'au contraire, et on le verra plus tard, la jalousie, au contraire, va animer d'autres disciples contre le Christ. Si vous connaissez un peu l'Évangile, il y a un épisode où, au contraire, il y en a qui vont rouspéter un petit peu. Oui. Pourquoi, tandis que les pharisiens et nous jeûnons, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? C'est pas juste, ça. Ouais, c'est une petite jalousie, comme ça, entre les disciples de Saint-Jean-Baptiste et les autres, etc. Voilà. Mais des hommes qui étaient mal disposés, qui donc ne pouvaient pas suivre Jésus-Christ, bien sûr. Et enfin, quatrième remarque de Saint-Jean Chrysostome, c'est qu'ayant entendu son témoignage, oui, tout cela est magnifique. Ayant entendu son témoignage, les disciples de Jean, donc ces deux disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent Jésus-Christ. Ils ne se permettent pas de parler à Jésus-Christ. Ils ne lui parlent pas. Ils n'osent pas lui adresser la parole. Ils sont conquis, donc, si vous voulez, par lui. Ils l'ont reconnu comme étant l'agneau de Dieu. Ils le suivent, mais ils ne lui parlent pas. Mais plein à la fois d'ardeur et de retenue, ardeur, dont le désir et la retenue comme discrétion. Il cherche à s'entretenir avec lui en particulier dans un endroit retiré. Donc ils le suivent, voilà, en espérant que peut-être un peu plus loin, ils pourront enfin tranquillement lui adresser la parole, à discrétion des disciples, qui n'assaillent pas aussitôt Jésus-Christ, maître, je ne sais pas quoi, tout ça, tout un discours. Non, discrétion. Et c'est Jésus-Christ qui va prendre l'initiative, justement, touché par cette droiture de ces deux disciples, voyez, par leur discrétion, eh bien c'est lui qui va se manifester à eux. Jésus se retourna. C'est lui qui se retourne vers eux. Ce n'est pas eux qui l'interpellent, Non. Ah non, ils disent rien. Et c'est Jésus qui se retourne. Jésus se retourna, les vit qui le suivaient et leur dit, que cherchez-vous? Ils le suivaient. Et saint Thomas d'Aquin note, puisqu'il le suivait, il ne pouvait pas voir son visage. Il marchait derrière lui, il ne voyait pas son visage. Aussi, le Christ, pour leur donner confiance, se tourne-t-il vers eux? Ils le suivent donc d'une façon un petit peu obscure, si l'on peut dire. Ils ne voient pas son visage, mais ils le suivent. C'est beau déjà. Alors, pour leur donner confiance, le Christ se tourne vers eux. Entendons par là que, à tous ceux qui commencent à le suivre avec un cœur pur, ceux qui ont un cœur pur, donc à ceux-là, ceux qui commencent à le suivre avec un cœur pur, le Christ donne la confiance ou l'espérance en sa miséricorde. Il leur manifeste son visage, son visage qui est un visage de bonté, un visage de miséricorde. Mais c'est la foi des disciples, la confiance des disciples qui décide Jésus-Christ à leur manifester son visage de miséricorde. Voilà, ils suivent sans rien dire. Et Jésus-Christ se retourne vers eux pour leur montrer son visage et répandre en eux sa grâce. Et à ce moment-là, c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui les interroge. Et que fait-il? Il va les sonder sur leur intention. Qu'est-ce que vous voulez? Que cherchez-vous? C'est la première parole de Jésus-Christ que nous rapporte Saint Jean. Dans l'évangile de Saint Jean, c'est la première parole du Christ. Quid queritis? Que cherchez-vous? Il y aurait bien des choses à dire sur ces paroles de Jésus-Christ. Il y a eu tout un tas de choses très belles qui ont été écrites, par exemple sur les sept paroles du Christ en croix. Et c'est sûr que ces sept paroles sont extraordinaires. Mais on peut aussi faire une petite étude sur les premières paroles du Christ. Nous avons déjà vu 1, 2, 3. Trois des premières paroles du Christ. Chaque évangéliste nous rapporte une première parole du Christ. Si vous prenez chacun des quatre évangiles, quelle est la première parole du Christ que nous rapporte Saint Luc? Certainement, je ne vais pas faire une interrogation, mais ça c'est amusant ça. La première parole du Christ que nous rapporte Saint Luc, c'est au temple. Pourquoi me cherchez-vous? Curieux? presque la même que celle que nous avons ici dans Saint-Jean, à sa mère et à Saint-Joseph. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Oui. Pourquoi? Ce n'est pas que cherchez-vous, mais c'est pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi vous inquiétez? Vous savez bien ce que je suis venu faire sur la terre. Je suis venu pour m'occuper des affaires de mon Père, donc ne vous inquiétez pas. Oui. Ensuite, la première parole que nous rapporte Saint Matthieu, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Eh bien, c'est à Saint Jean-Baptiste, hein, lorsque notre Seigneur vient se faire, vient recevoir le baptême de Saint Jean-Baptiste, hein, sine modo, voilà, laisse faire. Hein. Il nous faut accomplir toute la justice. Il nous faut accomplir toute la justice. Première parole de notre Seigneur dans Saint Matthieu. Et là-dedans, je dirais, nous avons déjà toute la, pratiquement toute la vie du Christ qui est annoncée. Je viens être aux affaires de mon Père, je viens accomplir toute la justice. Et ensuite, eh bien, nous avons Saint Marc. Voilà, il est écrit, nous avons vu ça la dernière fois, il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais également de toute parole, hein, qui tombe de la bouche de Dieu, toute parole de Dieu. Oui, là aussi, la parole. Et enfin, cette première parole que nous rapporte ici Saint Jean, quid pueritis, hein, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Oui. C'est une phrase, c'est une interrogation, une question que Jésus-Christ nous pose sans doute de temps en temps, et même sans doute assez souvent. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Cela convient, cette parole, nous dit saint Thomas d'Aquin, car ce que Dieu réclame en premier lieu de l'homme, c'est la droiture d'intention. La droiture d'intention. Et Dieu qui nous scrute un peu sur nos intentions. Que cherchez-vous? Vous venez à l'église, vous pratiquez la religion, vous venez aux conférences, vous faites ceci, faites là, très bien, mais que cherchez-vous? Quid queritis? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que c'est Dieu que vous cherchez? Ou est-ce que c'est à passer une après-midi tranquille, au chaud, ou bien parce que voilà, c'est une habitude, c'est une tradition, on va à la messe le dimanche, bon, ben, faut bien y aller, sinon je serai mal vu des voisins. Que cherchez-vous? Quid queritis? Que cherchez-vous? Bon, répondez. Chacun répondait à Dieu, c'est lui qui vous pose la question, ce n'est pas moi, c'est évident. Et il nous la pose à moi aussi, ne hein, vous inquiétez pas. Il nous la pose à tous, hein. Que cherchez-vous? La droiture d'intention. C'est la chose peut-être la plus importante dans une vie chrétienne. Hein. La droiture d'intention. Et les disciples répondent, bien sûr, pensez donc trop heureux que notre Seigneur se tourne vers eux et les questionne. Ils saisissent l'occasion aussitôt bien pour... Eh bien, pour leur faire connaître leur désir, leur ouvrir un peu son cœur, oui. Une petite phrase très simple, maître, rabbi, ce mot veut dire maître, où demeurez-vous? C'est beau ça, oui. Où demeurez-vous? Oui. Ils répondent par une question, à une question par une autre question. Certains diraient que c'est un peu jésuite, mais ce n'est pas tout à fait ça, non? Quand même, c'est vrai, c'est la spécialité des jésuites, dit-on, oui. Pour ne pas répondre aux questions, on pose une autre question, ça c'est le meilleur moyen, mais là ce n'est pas tout à fait l'intention des disciples, quand même. Car ils commencent par quand même affirmer quelque chose, rabbi, maître. Donc ils reconnaissent que Jésus-Christ est leur maître déjà, oui. Donc leur réponse commence, en fait, par une affirmation, ils répondent déjà à la question en disant rabbi, et bien ils lui disent qu'ils veulent recevoir son enseignement. Ils le reconnaissent comme leur maître, ils le reconnaissent comme un docteur, ouais, etc. Donc en l'appelant maître, eh bien, il lui affirme que ce qu'ils veulent, eh bien, c'est être enseigné par lui. Et ensuite, où habitez-vous? Alors là, bien sûr, c'est une question. C'est une question. Comment saint Thomas d'Aquin l'explique? Eh bien, il voulait, alors, on peut donner bien sûr plusieurs explications, une explication très simple, je dirais littéral un petit peu, il voulait connaître simplement la demeure de Jésus-Christ afin de pouvoir s'y rendre fréquemment. Savoir où il habitait, où est-ce qu'on peut vous trouver pour aller vous voir, simplement. Si on veut vous rencontrer, vous parler, s'entretenir avec vous, où est votre demeure? Où demeurez-vous? Bon, sans doute, cela est tout à fait vrai. Mais on peut voir d'autres sens. Et saint Thomas d'Aquin, bien sûr, les voit. Un sens allégorique, d'abord, sens allégorique, donc une image, un symbole, si vous voulez. La demeure de Dieu est dans les cieux. La demeure de Dieu est dans les cieux. Et donc, les deux disciples cherchent où habite le Christ, parce que nous devons suivre le Christ pour être conduits par lui aux cieux, c'est-à-dire à la gloire céleste. Maître, où demeurez-vous? Tiens, montrez-nous le chemin du ciel. montrez-nous votre demeure, montrez-nous comment nous devons faire, quel chemin nous devons prendre pour, eh bien, arriver dans votre demeure, c'est-à-dire à la gloire céleste, comment aller au paradis. Et puis enfin, troisième, tout ça est très très beau, j'espère que vous suivez un petit peu, c'est pas trop compliqué, c'est assez simple quand même, oui. Troisième signification que l'on peut trouver à cette question, c'est au sens moral. Où habitez-vous? Alors ça nous rapporte à un dogme, qui est un dogme de foi, c'est le dogme de l'habitation de la Sainte Trinité dans l'âme des justes. Ouais. Où habitez-vous? Ouais, sorte de question. Ouais. Où habitez-vous? Est-ce que vous habitez dans mon âme? Où habitez-vous? Comme s'il voulait savoir ce que doivent être les hommes pour être dignes que le Christ habite en eux. Et comment devons-nous être pour que vous habitiez en nous? Où habitez-vous? Est-ce que vous habitez en moi? Est-ce que vous habitez dans mon âme? Est-ce que vraiment mon âme est votre demeure? Ouais. Et si elle ne l'est pas, eh bien, que dois-je faire pour que mon âme devienne votre demeure? Maître, où habitez-vous? Alors sans doute, bien sûr, le sens immédiat, c'est le sens littéral. Sans doute, il voulait le suivre. Aller avec lui à l'endroit où il demeurait, même si cette habitation n'était pas puisque le Fils de l'homme n'avait rien, ne possédait rien ici-bas, sans doute avait-il une demeure à sa disposition. Bon, quelqu'un, des disciples, des amis, ou des amis de sa mère, peut-être, qui avaient mis une demeure à leur disposition, donc un endroit où il demeurait, où il pouvait se retirer, eh bien, les apôtres, ces deux disciples, voulaient savoir un petit peu, bien, où on pouvait le retrouver, où on pouvait s'entretenir avec lui. Oui. Mais ces autres sens sont beaux aussi, sont des leçons pour nous, et qui très certainement étaient aussi dans l'esprit des disciples, plus ou moins implicitement, et sont des questions que nous devons nous poser, nous aussi, et que nous devons poser au Christ. Voilà, quel chemin devons-nous prendre pour rejoindre votre demeure, et est-ce que mon âme est votre demeure? Est-ce que vous demeurez dans mon âme? Et si mon âme n'est pas actuellement votre demeure, que dois-je faire pour qu'elle le devienne vite? Voilà, pour que vous demeuriez en moi et que nous puissions nous entretenir ensemble. Et la réponse, eh bien, de notre Seigneur, réponse toute simple, venez et voyez, venez et voyez, venez et voyez, suivez-moi et voyez, venez voir par expérience, un petit peu, ben, où est ma demeure, quelle est ma demeure, Bon, nous n'étendrons pas, enfin, simplement, simple commentaire qu'en fait saint Thomas d'Aquin. Venez, dit-il, par la foi et par les œuvres, venez, venez, c'est-à-dire qu'il faut marcher, il faut avancer, il y a un chemin à parcourir, et c'est donc la part de l'effort de l'homme, si vous voulez, venez, donc, c'est la foi et les œuvres, tout ce que nous devons faire, nous, eh bien, pour rejoindre la demeure du Christ, et voyez, là, c'est la connaissance, c'est l'expérience que nous pourrons faire, alors, au terme de nos efforts, l'expérience, la connaissance, eh bien, de la demeure de Dieu. Et ensuite, eh bien, l'évangile continue et va nous en dire un petit peu plus encore sur cet événement. Ils allèrent donc et virent où il demeurait. Voilà, ils le suivent, ils virent où est sa demeure. Et ils restèrent avec lui ce jour-là. Il était environ la 10e heure. André, quelques petites précisions. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui, sur le témoignage de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Voilà, nous commençons et on en apprend des choses. Bien à savoir qu'un des deux disciples était André. L'autre, on ne sait pas qui c'est, mais on peut deviner qui c'est. Quand on ne parle pas de soi, ben, c'est que c'est toi qu'on parle. Quoi. Bon, vous comprenez. Hein. L'évangéliste, donc, nous dit saint Thomas, fait connaître le disciple, un des deux disciples, par son nom, André. Et que veut dire André? Cela signifie viril. Viril. L'homme. Ouais. L'homme. Viril, la force. Ouais. Et il donne son nom pour mettre en lumière son privilège, soit parce qu'il fut le premier à se convertir parfaitement à la fois au Christ. Vous voyez, saint André, donc, fut le premier disciple à se convertir à la fois au Christ, sans doute parfaitement. Vous voyez. Soit encore parce qu'il prêcha le Christ, car quel va être ensuite, nous le verrons, le premier mouvement de saint André, eh bien, ça va être d'aller prêcher le Christ. À qui? Au plus proche. Au plus proche, c'est-à-dire à son propre frère. À son propre frère. Oui. Vous voyez, donc Saint-André, le premier à se convertir parfaitement et le premier aussi à prêcher le Christ. Quant au deuxième disciple, eh bien, il tait le nom de l'autre disciple parce que cet autre était Jean l'évangéliste lui-même, tout simplement. Oui, probablement, bien sûr, ce n'est pas explicite puisqu'il ne le dit pas, mais on peut le deviner. Chaque fois que Saint Jean, l'auteur de l'évangile, veut se désigner, il ne dit pas son nom. Il nous parlera du disciple que Jésus aimait, ou il ne dit pas son nom. Et donc, chaque fois qu'il ne donne pas le nom d'un disciple ou d'un apôtre, eh bien, on peut deviner que c'est lui. Hein, c'est de lui qu'il est question. Et là, bien sans doute, le deuxième de ses disciples était Saint Jean. Saint Jean lui-même, l'évangéliste, celui qui nous rapporte donc cet événement et qui, par discrétion, se tait sur lui. Il tait le nom de l'autre disciple parce que cet autre était Jean l'évangéliste lui-même qui a l'habitude, quand il s'agit de lui, dans son évangile, de ne pas se nommer par humilité. Voilà donc ces deux premiers disciples qui seront les deux premiers apôtres, André, Saint André et Saint Jean, celui qui sera l'évangéliste, le disciple bien-aimé. Et ensuite, eh bien, que font ces deux disciples? Donc, ils sont demeurés avec lui le reste du jour. Et le Saint André, aussitôt, bon, Saint Jean ne parle pas de lui, mais que fait Saint André? Le premier qu'il rencontra fut son frère Simon. Voilà. Que fait Saint André aussitôt? Eh bien, il court vers son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. Et il faut se remettre un petit peu aussi peut-être dans l'esprit, l'ambiance de cette époque, où ces Juifs-là qui étaient des hommes droits, parce que Jésus-Christ a choisi des hommes droits quand même, des hommes qui l'attendaient, qui espéraient le Messie, ils savaient tous que le temps était venu pour le Messie de venir. Ils savaient que l'époque était là et que le Messie, donc, sans doute était parmi eux. Saint Jean-Baptiste baptisé, il annonçait le Messie, donc il n'est pas loin. Et voici ce bon Simon-là, qui est là en train de pêcher, ou je ne sais pas quoi faire, etc., et qui voit son frère à courir, qui dit, nous avons trouvé le Messie. Bon, ça y est, il est là. Dieu gracias. Et en avant, qu'est-ce qu'il fait? Il galope. Il ne discute pas, il ne cherche pas à se poser 1000 questions à droite et à gauche, non. Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ, et il l'amena à Jésus. Voilà. Et l'autre, il ne fait pas de résistance, aussitôt en avant. Où est-il ce Messie que nous attendons, ce Messie que nous espérons? Alors, quelques commentaires là-dessus, oui. Quels commentaires sur ces petits événements? Un signe évident, dit toujours saint Thomas d'Aquin, un signe évident de la parfaite conversion d'un homme, c'est que une fois converti, plus quelqu'un lui est proche, plus il se donne de peine pour le convertir au Christ, et court aussitôt vers son frère pour lui communiquer les biens qu'il a reçus. Et donc, André trouva d'abord son frère Simon, qu'il cherchait pour en faire son frère par la foi, comme il était par le sang. Nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé celui que depuis longtemps nous cherchons avec désir. Et il l'amena à Jésus. Et ces dernières paroles mettent en lumière l'obéissance de Pierre, qui ne pose pas de questions et ne tergiverse pas en avant. L'obéissance de Pierre. En effet, il accourt aussitôt sans tarder. Et remarquez ici encore, voyez, l'appartenance sans réserve d'André au Christ. Voyez, c'est un des signes auxquels on reconnaît les vrais disciples du Christ, comme Saint Jean-Baptiste. Voyez. Saint André, là, comme le faisait Saint Jean-Baptiste tout à l'heure, amène son frère au Christ et non pas à soi. Et donc il le conduit au Christ pour que celui-ci instruise son frère. Il enseigne en même temps que tel doit être l'effort et le zèle des prédicateurs, qu'ils ne revendiquent pas pour eux-mêmes les fruits de leur prédication, ni ne cherchent à en retirer profit et honneur personnel, mais qu'ils tendent à tout ramener à Jésus, à tout rapporter à sa gloire et à son honneur. Ouais. Ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, dit saint Paul, mais le Christ Jésus, notre Seigneur. Et là, oui, eh bien, nous arrivons à ce moment-là, à cette première rencontre. Tout ça, ce sont des moments extraordinaires. Il faudrait essayer de retrouver un petit peu ce que ça a dû être, quand même, je dirais, dans l'âme de ces personnages. Ouais. Même, c'est la première fois que Saint-Pierre va voir le Christ. Voilà. La première rencontre entre le Christ et celui qui sera le premier pape. Ah, il a dû se passer quelque chose dans l'âme de Saint-Pierre. Hein. Bon, il ne savait pas encore ce qu'il attendait, ça c'est clair. Hein. Première rencontre, voyez, entre Simon et le Christ et le Messie. Et alors, ben, qu'est-ce qui se passe? Rencontre très simple encore, voyez. Voilà, nous avons trouvé le Messie, l'amener à Jésus. Et alors, donc, ayant fixé sur lui son regard, tu es Simon, fils de Jonas, lui dit Jésus. Désormais, tu t'appelleras Céphas, c'est-à-dire Pierre. voulant élever Pierre jusqu'à la foi en sa divinité, commence à faire les œuvres qui sont celles de Dieu. Il lui révèle d'abord ce qui est caché au présent, c'est-à-dire tu es Simon. Comment est-ce qu'il le sait? Et Simon s'accorde, nous dit saint Thomas, avec le mystère de sa vocation, car le nom de Simon signifie obéissant. Il nous fait donc entendre que l'obéissance est nécessaire à qui s'est converti au Christ par la foi. Ensuite, il va lui révéler quelque chose de passé, également caché. Simon, fils de Jean. Voilà, il lui dit le nom de son père. Non seulement je sais ton nom, mais je sais aussi le nom de ton père. Simon, ça a dû quand même un petit peu l'étonner. Comment sait-il tout cela? Je suis Simon, je suis le fils de Jean. Et puis ensuite, alors là, bien sûr, plus étonnant encore, bon, qui est une véritable prophétie et qui s'accomplira quelque temps plus tard. Oui. Enfin, Jésus révèle ce qui est caché de l'avenir lorsqu'il lui dit « Tu t'appelleras Céphas », c'est-à-dire Pierre. Tu t'appelles Simon, tu es le fils de Jean, eh bien tu t'appelleras Pierre, tu t'appelleras Céphas. Pierre signifie en grec « chef », « tête ». Et de fait, il convient bien au mystère que celui qui doit être le chef des autres et le vicaire du Christ soit fixé dans la fermeté. Hein, Pierre, c'est le chef, c'est le roc, la fermeté. Hein, tu es Pierre, et sur cette église, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, donc la fermeté. Alors attention, hein, ce n'est pas encore la promesse. Hein, pour la, ça viendra plus tard, ça, hein, cet événement où notre Seigneur dira à Saint-Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bon, Seigneur, nous n'en sommes pas encore là. Là, c'est la toute première rencontre, hein, entre Saint-Pierre et notre Seigneur, où notre Seigneur, eh bien, lui prophétise qu'il s'appellera Pierre, qu'il deviendra donc Pierre, qu'il sera la pierre de son église. Mais ça, cela s'accomplira plus tard. Hein. Voilà, donc, la vocation des premiers apôtres, événement très simple, mais très riche. Hein. Donc d'abord Saint Jean, Saint André. Saint André qui va chercher son frère, Simon, Saint Pierre. Et le lendemain, eh bien ça continue. Voilà, cette fois c'est notre Seigneur tout seul qui avait résolu de retourner en Galilée, rencontre Philippe, un autre apôtre, un autre homme là qui est là. Philippe, il lui dit, suis-moi. Et voilà, c'est fini. Et Philippe, eh bien il suit. Il ne pose pas de questions lui non plus, ouais, en avant, il suit. Conquis, saisi, hein. Bon, sans doute, peut-être, était-il un des disciples de saint Jean-Baptiste, vous voyez, voilà, il ne discute pas, il ne pose pas de questions, oui, mais où et jusqu'à quand, est-ce que je pourrais aller, non. Là, dès qu'on pose une question, c'est fini, terminé, c'est bien, bon, très bien, reste chez toi, hein. Il y a des passages qui sont terribles dans l'évangile pour ça, ouais. Lorsque notre Seigneur, pendant un moment où il appelle un disciple, comme ça un jeune homme, là, qui était riche, hein, qui avait de grands biens, et il lui dit, viens et suis-moi, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et l'autre avait de grands biens. Voilà, il n'a pas suivi. Ou bien l'autre qui lui pose la question, mais laissez-moi aller enterrer mon père. Mais dès qu'on pose une question à notre Seigneur, c'est fini, on coupe le fil. Alors quand il dit, suis-moi, on ne discute pas. C'est simple. Ouais. Et c'est ce qui est magnifique, justement, ouais, dans toute cette vocation des premiers disciples, c'est qu'on ne les voit pas poser une question. Suis-moi, en avant. Nous le verrons plus tard, parce qu'il y aura une deuxième vocation de Saint-Pierre, Jean, Jacques, etc. Ils étaient en train de pêcher, hop là, que nous dit l'Évangile, ils laissent tout leur filet et ils le subirent aussitôt. Voilà, ils sont en train de pêcher, ils abandonnent tout sur place, vous voyez. Voilà, ils laissent leurs tracteurs et leurs abricots, tout ça, et en avant, hein, ils suivent notre Seigneur. Eh oui, est-ce que vous le feriez, vous? Est-ce que vous le feriez, vous? Ou je ne sais pas quoi, autre chose, hein, bon, etc. C'est égal, ça. Voilà. Vous êtes en train de travailler, vous avez tous vos outils de travail à la main, etc. Un homme qui passe, qui vous dit, suis-moi, pouf, il y en a pas, vous suivez? J'espère. Attention, pas n'importe qui, quand même, attention, c'est clair. Mais enfin, là, je pense, c'était des situations un peu particulières, quand même. Ils avaient des grâces aussi, peut-être, un peu particulières. Donc le quatrième, donc c'est Philippe, suis-moi. Philippe était de Bethsaïde, de la même ville qu'André et Pierre. Alors peut-être, oui, se connaissaient-ils déjà, André, Pierre, Philippe, peut-être avait-il parlé de tous ces événements, et il a suffi à ce moment-là que Jésus passe, suis-moi, et il a suivi, sans discuter. Et que fait Philippe? Et c'est magnifique, vous voyez, c'est par rebondissement. Philippe, eh bien, comme saint André, voilà, il est converti, mais qu'est-ce qu'il fait? Il court vers chercher un copain, si on peut dire, mais disons, ça y est, on l'a trouvé, nous aussi. Et en avant, il va rencontrer Nathanaël. Nous l'avons trouvé, celui dont parle Moïse dans la loi et qu'annoncent les prophètes, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Alors là, Nathanaël, lui, il dit « Oulala, qu'est-ce que c'est cette histoire-là » Peut-être n'était-il pas très au courant, je ne sais pas, ça. Il dit « Nazareth, ouh, ça va pas, c'est Nazareth, c'est une drôle de pays, ça. » « De Nazareth, » répondit Nathanaël, « que peut-il sortir de bon ?» Nazareth, une petite ville abandonnée, méprisée par tout le monde. Mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Eh bien, viens et vois. Allez, viens. Et alors, tu verras bien toi-même. Moi, je ne suis pas là pour te raconter des histoires. Viens. Et Nathanaël, il vient voir. Il vient voir, et en avant, et toujours pareil. Ouais, c'est toujours notre Seigneur qui prend l'initiative. Il regarde Nathanaël qui arrive. Ouais. Voilà, Nathanaël, donc, qui arrive avec Philippe, sans doute. Là. Et Jésus-Christ regarde Nathanaël. Et avant que Nathanaël ait posé la moindre question ou dit quoi que ce soit, c'est Jésus-Christ qui prend la parole. Alors, ouf, ça fait tout de suite, ça fait choc, hein, si vous voulez, ça réagit. Et notre Seigneur lui dit, voici vraiment un Israélite, il n'y a en lui aucune duplicité. Qu'est-ce que c'est cette affaire, hein? Mais en fait, d'où me connaissez-vous? On ne s'est jamais rencontré, on ne s'est jamais parlé, etc. D'où me connaissez-vous? Demanda celui-ci. Avant que Philippe t'appelât. Avant même que Philippe donc aille te chercher, répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ah ben ça, alors c'était un peu fort. Comment il sait que j'étais sous un figuier en plus? Ouais. Eh oui, voilà. Et donc notre Seigneur, très simplement, mais il réaffirme sa divinité. Qui d'autre que Dieu peut savoir qu'il était sous un figuier, etc. etc. Qui d'autre? Voilà. Alors là, eh bien, effectivement, réaction de Nathanaël, ça c'est clair, Rabbi. Vous êtes le fils de Dieu. Bah, c'est beau, ça. Vous êtes le roi d'Israël. Et Jésus reprit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Et tu verras pourtant de plus grandes choses encore. Pourtant, c'est déjà pas mal, hein, mais tu verras encore de plus grandes choses. Et il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant au-dessus du fils de l'homme. Hein? Et donc, il expose, il affirme, il confirme encore sa divinité. Vous verrez encore des choses encore plus grandes. Hein. Les anges de Dieu qui montent et qui descendent au-dessus du Fils de l'homme. Voilà. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Alors ensuite, il y aura bon, les autres disciples. Et nous retrouverons justement un peu plus tard. Vous voyez, là, c'est la toute première vocation des disciples. Hein. Notre Seigneur commence déjà un petit peu à ébranler les âmes. Et à, je dirais non pas à recruter, le terme ne serait pas tout à fait exact, mais enfin à s'entourer de quelques disciples, que plus tard, eh bien, il dirait, auquel plus tard, il confirmera son appel en faisant véritablement des apôtres. Hein. Pour l'instant, il commence à avoir son petit groupe là, de disciples, hein, d'hommes bon, qui croient en lui, hein, bon, qui commencent à croire ben, que... Effectivement, il est le Messie. Ils ne sont pas encore très éclairés, tout n'est pas encore parfaitement clair dans leur esprit, mais en tout cas, pour eux, il n'y a pas de problème, il est le Messie. Bon, après, bon, on verra bien. Et ensuite, eh bien, le premier événement, bon, tout cela bon, est encore semi-public, et le premier grand événement de la vie véritablement publique, alors, de notre Seigneur, eh bien, ce sont les noces de Cana. Très, très beau passage, très simple aussi. Que nous connaissons bien, et qu'on a toujours du mal un petit peu à comprendre, surtout dans certaines phrases de notre Seigneur à sa mère, hein, quand tu lui dis « Femme, que voulez-vous de moi ?» Bon, quand même, c'est pas comme ça qu'on parle à sa maman, quand même, c'est la réaction que nous pouvons avoir, et bien, voilà, on va voir un petit peu. Donc, c'est noces de Cana, dont Saint Jean nous dit que cela se déroule trois jours après, ont célébré les noces à Cana en Galilée. Bon, on ne sait pas qui sont ces époux. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y avait des noces. Et les exégètes situent ces noces de Cana, semble-t-il, en gros, à peu près un an après le baptême de notre Seigneur. Vous voyez, donc tout ce que nous venons de voir, entre le baptême, la tentation, les premiers disciples, tout ça, se serait étalé à peu près sur une année. Bon... Voilà, on essaie un petit peu de situer tout cela. Donc, sans doute un an après le baptême. Et Jésus, vous voyez, ce qui est intéressant, ben, c'est que Jésus n'est quand même pas encore très, très connu. Ouais. Bon, il a ses quelques disciples, hein, ses quelques amis, mais il est peu connu. Ouais. Trois jours après, on célébrait des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus y était. C'est la mère de Jésus qui y était. Jésus y fut également convié avec ses disciples. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on a invité Jésus? Parce qu'on avait invité sa mère. C'est poli quand même, quoi. Quand on invite la maman, on invite aussi le petit avec, qui était déjà un petit peu grand, mais enfin, qu'est-ce que c'est normal. Sans doute, oui, sans doute, faut-il penser que Saint Joseph était mort déjà à l'époque, puisqu'on ne parle pas de lui. Donc probablement, Saint Joseph avait rendu son âme à Dieu également, pas déjà plutôt, puisqu'il n'est pas invité, il n'est pas fait du tout mention de lui dans cet épisode, et ni non plus ensuite dans tout l'Évangile. Et cet épisode donc des noces de Cana, eh bien, nous montre que Jésus, eh bien, était encore relativement inconnu. Il n'est pas invité aux noces comme une personne, un signe, mais uniquement en raison de certaines relations amicales, comme une personne de connaissance. Comme on avait invité la mère, on invita aussi le fils. Voilà. Bon. Et ça va être l'occasion pour Jésus-Christ, eh bien, de se manifester véritablement au monde. Là, cette fois, c'est vraiment une manifestation que lui-même va faire, tout seul, si on peut dire, une manifestation de sa divinité. Alors, bien sûr, les auteurs, les commentateurs voient beaucoup d'enseignements, ne serait-ce que dans ce fait de la présence de Jésus-Christ aux noces à Cana. D'abord, un exemple d'humilité. Ouais, exemple d'humilité, mais il est invité parce qu'il est le fils de sa mère, simplement. Donc, ce n'est pas encore la grande gloire, si l'on peut dire, extérieure. Ouais. Il n'avait pas égard à sa propre dignité, ouais, mais non, il suit sa mère, simplement. Et puis ensuite, deuxième exemple, bien sûr, cela qui vous réjouir à tous, certainement, mais vous le savez déjà, eh bien, notre Seigneur donne à entendre, eh bien, qu'il faut réprouver fortement l'erreur perfide de ceux qui dénigrent le mariage. Et oui, il y en a qui méprisent le mariage, quand même, ça, ben non. Notre Seigneur est allé aux noces, alors, si le mariage était une chose épouvantable et condamnable, je ne vois pas comment Jésus-Christ aurait pu participer à un repas de noces, c'est évident cela. Donc il est tout à fait bon, rassurez-vous, de se marier, Dieu gracias. Bon, pour ceux du moins dont c'est la vocation, voilà. Et alors cet épisode des noces de Cana, bien, va se dérouler en trois temps, ouais, trois phases, où nous voyons intervenir, eh bien, chacun des personnages, d'abord la mère du Christ, ensuite le Christ lui-même, et ensuite ses disciples. Vous voyez, c'est trois temps. À la mère revient le soin de solliciter le miracle. C'est elle qui va solliciter le miracle, hein, qui va amener, si on peut dire, le miracle. C'est le Christ qui va accomplir le miracle, bien sûr. Et ce sont les disciples, ensuite, qui vont attester, confirmer, témoigner, si vous voulez, de la vérité de ce miracle. Vous voyez. Alors d'abord, eh bien, le rôle de la mère, hein, le rôle de Notre-Dame. C'est le dernier. Nous avons là les dernières phrases de Notre-Dame aussi. C'est très beau tout cela, et tout ça est à méditer. Nous aurons là la dernière phrase que l'Évangile nous a conservée de Notre-Dame. Voilà. Nous verrons tout à l'heure. Eh bien, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà, le testament de la Vierge. Faites tout ce qu'il vous dira. Une fois qu'elle nous a dit ça, Notre-Dame, elle n'a plus rien à nous dire. Elle a tout dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Si nous obéissons à la Vierge, tout ira bien. Mais faites tout, 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 tout ce qu'il vous dira. Eh oui, tout. Ça fait beaucoup. Bon. Donc la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Eh bien, c'est le rôle de médiatrice. C'est assez classique, bien sûr. Tout le monde a vu dans cet épisode des noces de Cana, la Vierge qui joue son rôle de médiatrice. Médiatrice. Et qu'elle fait le milieu, elle fait le lien entre deux. Elle fait le lien entre deux, entre son fils et les âmes. Oui, donc dans un premier temps, elle adresse une demande à son fils, et ensuite elle va donner une instruction au serviteur. Oui, d'abord elle s'adresse à son fils, c'est normal, on commence par la personne la plus digne, la plus importante, et ensuite eh bien, on s'adresse au serviteur. Voilà. Et cette demande de Notre-Dame, qui est une prière, donc le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. C'est une prière, ça, bien sûr, mais c'est une prière qui est parfaite, si vous voulez. Parce qu'en fait, c'est une prière qui n'en est pas une. C'est l'exposé d'un besoin, c'est tout. L'exposé d'un désir, l'exposé d'une misère, d'une faiblesse, ils n'ont plus de vin. Elle ne dit pas, mon fils, s'il vous plaît, faites quelque chose, et les pauvres petits n'ont plus de vin. Non, ils n'ont plus de vin. Elle expose un besoin, elle expose un manque, c'est tout. Et elle a suffisamment confiance dans le cœur de son fils pour savoir eh bien, qu'il sait ce qu'il a à faire et qu'il saura tout à fait bien répondre aux véritables besoins. Ouais. Donc dans cette demande de Notre-Dame, remarquons d'abord, nous dit saint Thomas, sa bonté et sa miséricorde. Sa bonté et sa miséricorde. Il appartient en effet à la miséricorde de regarder comme sienne l'indigence d'autrui. Voilà, oui. La Vierge qui voit l'embarras, la gêne dans laquelle vont se trouver ces jeunes époux et qui souffre en elle-même déjà de ce qui va être un petit peu leur honte, un petit peu, on n'a plus rien à donner à boire à nos invités, c'est gênant quand même, c'est ennuyeux, on ne sait plus très bien comment... Voilà, quoi, ça va pas bien, on est mal à l'aise. Eh bien, la Sainte Vierge, elle éprouve un peu cette gêne elle-même, elle en souffre elle-même, oui, c'est pourquoi elle intervient. Oui. Donc c'est un signe de sa bonté, de sa miséricorde, elle a le cœur vraiment très bon, très tendre. Et tout ce qui est souffrance d'un autre, eh bien, devient sa propre souffrance à elle. Oui. Et ensuite, eh bien, considérons aussi son amour respectueux à l'égard du Christ, voilà, oui. Le fait de ne pas, dirais, l'ennuyer avec une demande trop pressante, trop précise, ça montre un petit peu ce respect qu'elle a pour son fils. Oui. Dans l'amour respectueux que nous avons envers Dieu, il nous faut simplement lui présenter notre indigence. Voilà, lui présenter notre indigence. Oui. Suivant ce verset, « Seigneur, tout mon désir est devant toi. » Au psaume 37, « Seigneur, tout mon désir est devant toi. » Vous connaissez mon âme, vous connaissez mon cœur, vous connaissez mes désirs, eh bien, voilà, faites ce que bon vous semble. De quelle manière Dieu nous viendra en aide? Il ne nous appartient pas de chercher à le savoir. C'est pourquoi la mère de Jésus présenta uniquement au Christ l'indigence des autres en disant, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin, et tout. Et enfin, notons également la sollicitude et les ailes aimants de la Vierge. Bon. Là, il faut peut-être voir un peu les textes originaux. La sollicitude et le zèle aimant de la Vierge, car elle n'attendit pas pour intervenir que la nécessité fût extrême, mais elle le fit, le vin venant à manquer. C'est-à-dire que le vin commençait à manquer. Il y en avait encore un petit peu, mais ça commençait à baisser. Ouais. Allez, attention, vite, intervenons avant que ben, vraiment la situation soit grave. Ouais. Voilà. Donc, sollicitude. Ouais. Elle a l'œil à tout, comme une bonne mère de famille, comme une bonne maîtresse de maison. Ouais. Elle n'est pas chez elle, bien sûr, donc elle est très discrète, mais elle a l'œil quand même, elle dit, oh, attention, bien, ça baisse, le niveau baisse, ouh là là, il va y avoir un petit problème, donc intervenons, avant que le problème soit réel et trop grave. Hein. Sollicitude des ailes aimantes de la Vierge, le vin venait à manquer, le vin commençait à manquer. Voilà, donc elle expose simplement le besoin dans lequel les époux qui l'ont invité vont se trouver. Et c'est la réponse de notre Seigneur. Alors, bien sûr, qui peut paraître un peu surprenante, oui. Quid mihi et tibi est mulier? Qu'y a-t-il entre vous et moi, ô femme? Mon heure n'est pas encore venue. Bon, alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cette simple phrase-là a donné lieu à beaucoup d'erreurs que nous n'examinons pas. Parce que, effectivement, on pensait donc qu'une phrase pareille, je dirais, offre un point de départ facile aux hérétiques, ceux qui veulent nier justement la vérité de l'humanité de Jésus-Christ. Oui, c'est lui-même qui le dit. Qu'y a-t-il de commun entre vous et moi? Donc, ce n'était pas un vrai homme. Ben non, ce n'est jamais cela que Jésus-Christ a voulu dire, bien sûr, non. Simplement, Jésus-Christ, justement, a voulu distinguer en lui-même ce qui relève de sa divinité et ce qui relève de son humanité. Car il y a deux natures en Jésus-Christ, vous le savez, tout cela. Bon, une seule personne, mais deux natures, la nature divine et la nature humaine. Et voici l'explication que donne saint Augustin et que reprend saint Thomas d'Aquin. Il y a en Jésus deux natures. Bon, ça nous savons tous. Hein. Bon, la divine et l'humaine. Et bien que le même Christ soit dans les deux natures, c'est la même personne hein, qui a ces deux natures, cependant, ce qui lui convient selon la nature humaine, donc son humanité, ses capacités humaines, est distincte de ce qui lui convient selon la nature divine. Il y a dans la personne de Jésus-Christ des choses qu'il tient de sa divinité et d'autres qu'il tient de son humanité. Son corps humain, son âme humaine, bon, tout ce qu'il y a d'humain en lui, il le tient donc celui de sa mère. Bon, de Dieu, premièrement, bien sûr, mais de sa mère directement. Et ce qu'il y a de divin, sa divinité, il ne la tient pas de sa mère. Il la tient de Dieu, il la tient de lui-même. Ouais. Bon. Et ainsi, faire des miracles, ce que sollicite, ce qu'espère, ce qu'attend Notre-Dame, et ce qu'attend sa mère, faire des miracles lui appartient selon la nature divine qu'il a reçue du Père. Faire des miracles, Dieu seul peut faire des miracles. Un homme ne peut pas faire de miracles. Hein. Mais Dieu seul, oui, Dieu peut faire des miracles. Donc, faire des miracles lui appartient selon la nature divine qu'il a reçue du Père. Mais souffrir lui revient selon la nature humaine qu'il a reçue de sa mère. Dieu ne souffre pas. En Jésus-Christ, c'est l'homme qui souffre. Hein. Et sa capacité de souffrir lui vient de son humanité, donc cela lui vient de sa mère. Alors que sa capacité de faire des miracles, cela lui vient de Dieu, uniquement. Voilà. C'est pourquoi, à sa mère qui lui réclame un miracle, il répond, « Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi, entre toi et moi ?» Oui. C'est-à-dire, comme s'il disait, « Ce qui en moi peut faire des miracles, je ne l'ai pas reçu de toi. » Mais c'est cela, je ne l'ai pas reçu de vous. Voilà. Je ne l'ai pas reçu de vous. Mais ce que je souffre, c'est-à-dire ce qui me rend capable de souffrir, la nature humaine, alors oui, cela, je l'ai reçu de vous. Et pourquoi ? Je vous reconnaîtrai lorsque cette faiblesse sera suspendue à la croix. Aussi, le Seigneur ajoute-t-il, mon heure n'est pas encore venue. Voyez ? Mon heure n'est pas encore venue, c'est-à-dire, quand arrivera l'heure de ma passion, alors oui, je vous reconnaîtrai pour ma mère. Parce qu'alors, eh bien, ce qui souffrira me vient de vous. Et alors là, oui, effectivement, ça sera très commun. Voyez, c'est mon humanité qui souffrira. Et ça, effectivement, bien, je le tiens de vous. Hein? Alors là, effectivement, nous l'avons en commun, cela. Mais actuellement, l'heure de faire des miracles, ça ne vient pas de vous. Ça vient de mon Père, ça vient de Dieu. Hein? Ça ne vient pas de vous. Et c'est pour cela que, suspendu à la croix, Jésus confia sa mère à son disciple. C'est à ce moment-là, effectivement, hein, nous l'avons... Tout l'évangile est très, très explicite là-dessus. Ouais. C'est sur la croix hein, que Jésus-Christ bien, reconnaîtra, si on peut dire, sa mère, lui rendra son titre de mère pour la donner à ce moment-là à son disciple Saint-Jean. Ouais. Mais pour l'instant, bien puisque c'est l'heure des miracles, eh bien, ça n'est plus l'heure directement ouais, de la Vierge. Bon, il lui appartient de le solliciter, peut-être, de prévenir, de disposer des choses, mais ensuite, l'accomplissement du miracle, eh bien, cela ne relève que de la divinité, c'est tout. Et donc, effectivement, cela ne relève pas de ce que le Christ a en commun avec sa mère, mais uniquement de ce qu'il a en commun avec son Père du ciel, c'est-à-dire avec Dieu. Cela vient de la divinité. Et la Sainte Vierge a parfaitement compris cela. Elle n'a pas été offusquée. Oui, certains s'offusquent un peu de cette formule. Oh, quand même, il est un peu brutal avec sa mère. C'est pas comme ça qu'on traite sa maman, quand même. Notre-Dame, apparemment, n'a pas été choquée du tout par cette réponse de notre Seigneur. Elle a parfaitement compris ce que cela signifiait. Et c'est pourquoi elle se tourne vers les serviteurs. Et qu'est-ce qu'elle leur dit? Eh bien, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Quodcumque dixerit vobis facite. Quoi que ce soit qu'il vous dise, faites-le. Oui. Quoi qu'il vous dise. Faites-le. Et c'est magnifique, ça. Hein? Voilà ça. Et là, eh bien, nous avons, ce sont les dernières paroles de la Vierge. Voilà, depuis, la Vierge est rentrée dans le silence. C'est fini. Et elle ne dit plus rien. Et ça nous suffit. Quod cumque dixerit vobis facite. Quoi qu'il vous dise, faites-le. Voilà. Puis elle nous a dit tout ce qu'elle nous avait à dire et cela nous suffit bien. Et donc la mère de Jésus ne doute pas de la miséricorde de son fils, bien sûr. Elle sait très bien qu'il a compris sa demande, qu'il a compris sa prière. Elle sait très bien qu'il fera ce qu'il faut faire. C'est pourquoi elle n'hésite pas à dire quoi que ce soit qu'il vous dise, faites-le. Et bien sûr, ces paroles, à la vérité, dit saint Thomas d'Aquin toujours, renferment la perfection de toute justice. puisque la justice parfaite, c'est d'obéir en toutes choses au Christ. La justice parfaite, c'est d'obéir en toutes choses au Christ. Eh oui. Voilà. Donc, tout ce qu'il vous dira, quoi que ce soit, faites-le. Et saint Thomas d'Aquin rapporte que, bien sûr, cette phrase-là ne peut s'adresser qu'à Dieu seul. Ouais, cela ne peut, on ne peut dire une chose pareille qu'en parlant de Dieu. Tout ce qu'il vous dira, quoi que ce soit, faites-le. Ouais. Car l'homme peut parfois se tromper, aussi parfait soit-il, l'homme peut parfois se tromper, et d'aucun homme, on ne peut dire une chose pareille, quoi que ce soit qu'il vous dise, faites-le, d'aucun homme. Et parce que tout homme est faillible, tout homme peut se tromper, quel qu'il soit, même le pape. On ne peut même pas dire du pape, quoi que ce soit qu'il vous dise, faites-le, on ne peut pas. Et parce qu'il peut se tromper. Et il y a des domaines où il ne peut pas se tromper, d'accord, mais il y en a d'autres où il peut se tromper. Ouais. Et ça, une phrase pareille, on ne peut l'adresser qu'à Dieu, qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Voilà donc la préparation du miracle, ouais, cette présentation du besoin par Notre-Dame, et puis la réponse de notre Seigneur, et enfin cette dernière prescription donnée par Notre-Dame, faites tout ce qu'il vous dira. Et le miracle est bien très simple, ouais, miracle très 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 simple, qui se déroule sans grande... un phénomène extraordinaire, voilà, quelques urnes dans lesquelles il y a de l'eau pour les purifications, et dans lesquelles Jésus-Christ dit de verser de l'eau, les serviteurs les remplissent jusqu'au bord, et bien maintenant puiser et porter à l'ordonnateur du festin. Ils le firent, et à peine eut-il